Connaît-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus 1 heure.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Barthas sur le 107 de la bande FM en Sud-Lozère et sur radiobarthas.net partout ailleurs. Il est tout juste midi et des poussières en ce jeudi 20 août et à l'occasion des projections Cinéco du film Sauvage de Camille Poncin. Eh bien, nous sommes aujourd'hui justement avec Cinéco qui s'invite sur nos ondes pour une chronique Parlons Ciné avec Cinéco version longue. Salut David.
Bonjour Raphaël.
Alors David, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, tu es bénévole Cinéco à Saint-Enimy et tu animes régulièrement la chronique Parlons Ciné avec Cinéco dans cette émission. Et tu es avec moi en studio ce midi, à distance, pardon, pas en studio, on est à distance, pour recevoir Camille Poncin. Bonjour Camille.
Bonjour.
Bienvenue à Radio Barthas, merci d'être avec nous. On est ravis de pouvoir échanger autour de votre film Sauvage. Et juste avant de commencer, je propose de faire entendre aux auditrices et aux auditeurs la bande-annonce du film.
Ah
Anja, ma peau douce, si tu lis cette lettre, c'est que tu as trouvé l'endroit où je viendrai désormais te déposer à manger. Maman.
Qu'est-ce que tu fous, là? Anja est viande sauvage, tu la nourris comme un chat d'appartement? Ça marche pas du tout, votre truc.
Vous me racontez qu'elle vit seule dans la montagne, qu'elle a peur de tout, et désormais même de vous.
Elle dit que les animaux lui parlent.
Les animaux ne parlent pas. Votre fille peut s'en sortir, vous le savez, ça?
Si on la drogue, si on l'enferme.
Il y a un problème? Il est arrivé quelque chose?
On a reçu des plaintes pour vol, violation de domicile et dégradation.
Vous entendez ce qu'on vous dit, madame?
Vous l'avez vue où et quand la dernière fois?
Je vais lui parler.
Je sais pas lui parler. La vérité, c'est que t'es complètement paumé.
Si on est tous là... tous concernés par le comportement d'Anja, c'est pour essayer de trouver une solution. Parce que si on ne trouve pas de solution, d'autres s'en chargeront.
Oh putain!
Oh non, c'est pas vrai.
Elle a tout détruit!
Il n'y a que vous qui pouvez faire en sorte d'éviter que les choses finissent mal.
Les plus cinéphiles d'entre vous auront peut-être reconnu les voix de Céline Salette et de Bertrand Belin, les comédiens qui jouent les rôles de la mère et du père de la jeune Anja, interprétée, elle, par Lou Lampros, dont on entendra par contre très peu la voix le long du film, car Anja est une adolescente qui fuit son foyer, sa famille, son hameau déjà très isolé d'une vallée cévenole, pour aller vivre dans un isolement quasi total, en sauvage, se coupant du monde des humains, n'acceptant qu'un lien très distant avec sa mère Sam, qui elle fait tout pour qu'Anja ne disparaisse pas totalement, pour que le cordon qui la relie au monde ne se brise pas. Alors cette histoire, Camille Poncin, vous ne l'avez pas inventée, vous en avez été le témoin. Qui est Anja?
Alors Anja est une jeune femme, hein, plutôt qu'une adolescente. Anja est une jeune femme qui a grandi dans la vallée française, que j'ai connue moi depuis qu'elle était gamine. Et donc, voilà, c'est inspiré de l'histoire de cette jeune femme. Anja est un nom, n'est pas le vrai nom du personnage, du vrai personnage. Voilà, c'est le nom, un nom de fiction qu'on a donné pour le personnage, parce qu'évidemment, quand on adapte une histoire, on prend certaines libertés. Et pour moi, le fait de changer aussi les noms de tous les personnages, ça me permettait de prendre une distance avec le réel et qui était peut-être plus confortable pour moi et aussi peut-être plus agréable pour les protagonistes de l'histoire. Voilà, donc c'est une jeune fille qui a grandi dans la vallée française, qui a été scolarisée dans la vallée française, et puis à un moment donné, qui a décroché un peu de l'école, qui a eu des soucis, comme peuvent le rencontrer de nombreux adolescents, et puis qui a eu des soucis par rapport à l'école, des soucis peut-être familiaux aussi, des soucis sociaux dans sa vie sociale, et puis qui s'est lentement mais sûrement éloigné un peu de tout le monde et qui s'est un peu renfermé, qui est un peu parti à la dérive. Et puis après, il y a eu des événements déclencheurs qui sont un peu mystérieux, que seule elle connaît, mais qui tout à coup se sont incarnés de manière très visible quand elle avait une vingtaine d'années. Et là, elle était un peu partie dans son monde, si je puis dire, comme ça peut arriver quand on a des troubles psychologiques. Alors à quoi ils étaient dus, ça, c'est pas la question, et c'est pas la question qui m'occupe et qui nous occupe dans le film. Mais toujours est-il que quand on la découvre dans le film, c'est l'histoire d'une femme qui a des troubles importants psychologiques. Et voilà, et elle sait, dans la vraie vie, c'est cette jeune fille que l'on connaissait tous, cet enfant, cet ado, et puis cette jeune femme qu'on connaissait tous, qui s'est tout à coup renfermée, et qui s'est tout à coup isolée, et puis un jour, elle s'est isolée au point d'aller vivre toute seule dans les bois de la vallée française, autour de la vallée française. Et donc, on l'a vue comme ça quitter le monde des hommes pour habiter toute seule parmi les bois, parmi les arbres, parmi les rivières, parmi les animaux. Et la seule qui a réussi à maintenir un lien avec elle pendant toutes ces années, parce que cette histoire a duré très longtemps, personne n'imaginait que ça durerait si longtemps. Au début, on se disait, ça va durer quelques mois. Ça arrive aussi des gens qui ont une démarche d'aller vers la nature, d'aller habiter des cabanes, se retirer un maximum du monde. Mais elle, c'était une démarche plus importante que ça, et puis avec des troubles psy. Donc, c'était pas une démarche militante ou écologique, c'était vraiment un problème psy. Et donc, quand on l'a vue s'isoler comme ça, ça nous a tous perturbés. On s'est dit, dans 6 mois, elle sera revenue, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois. Et puis, en fait, elle revenait pas. Et puis, ça a duré 1 an. Et puis, après un premier hiver, on s'est dit, c'est pas possible, elle va pas pouvoir passer un deuxième hiver toute seule. Et puis, elle a passé un deuxième hiver, et puis un troisième, et puis... Et puis ça a duré comme ça pendant 15 ans en réalité. Alors le film raconte cette période, mais ramassée sur 2 ans pour les besoins de la fiction et de la tension narrative, comme on appelle ça. Cette histoire a duré en réalité 15 ans. Voilà. Donc moi j'ai suivi l'histoire depuis le début parce que je connaissais cette gamine. Je connais ses parents, sa mère très bien. Je connais son frère, son grand frère était un ami d'enfance à moi. J'ai voulu raconter cette histoire qui nous travaillait tous et qui travaillait tout le monde dans la vallée, tous les gens qui ont été confrontés. C'est une histoire. C'est une histoire collective et intime à la fois. Voilà, c'est ça qui est assez paradoxal parce que tout le monde a connu. Cette Anja, comme je l'appelle dans le film, tout le monde avait une histoire avec elle. Donc au début, c'était vraiment une gamine de la vallée qui avait un problème et dont tout le monde se souciait. Et puis, à un moment donné, elle est devenue le problème de la vallée.
Justement, l'histoire que vous venez de nous raconter, pourquoi est-ce que vous avez envie de la raconter au cinéma ?
Parce que c'est une histoire fascinante, c'est tout simplement l'histoire d'une jeune femme qui quitte la cité, qui quitte le monde des humains et qui part vivre toute seule dans les bois, sans plus aucun contact avec qui que ce soit, sans plus échanger, donc c'est quand même très troublant, ça pose énormément de questions, ça fascine, et donc j'ai eu envie de la raconter parce que tous les gens qui ont eu vent de cette histoire depuis ces 15 dernières années ont tous été touchés et fascinés par cette histoire. Puis en plus, moi je l'ai connue petite, cette gamine, c'était la petite fiancée de mon cousin pendant un été, c'était une gamine que j'ai vue à la rivière chaque année, que j'ai vu au village, que j'ai vu se promener avec les autres, avec les grappes d'enfants, parce que dans la vallée de Trabassac, les enfants se connaissent tous, évoluent tous entre eux, se promènent tous ensemble, passent de maison en maison souvent, se retrouvent tous à la rivière, et puis de la voir tout à coup comme ça dériver et s'isoler au point de repartir presque à l'état sauvage, c'est quand même, ça interpelle et c'est saisissant. Les questions que je me posais, moi, c'était principalement, je m'identifiais pas trop à elle, je m'identifiais beaucoup moins à la mère, et je me disais, parce que j'avais déjà des enfants, et donc je me disais, mais qu'est-ce que je ferais, moi, si mon enfant faisait la même chose? Et dans quel état doit se trouver la mère? Et puis pour elle, comment est-ce que c'est possible de ne pas parler, de ne pas échanger, de voir personne? Et c'était surtout ce silence, quoi, le silence de la parole. Je me suis toujours demandé comment c'était possible. Donc voilà, c'est un peu comme une histoire mythologique, hein, et c'est comme une histoire mythologique, ça rappelle aussi, moi j'avais pensé pour le titre du film à des références de la mythologie grecque, des Ménades, les Ménades qui sont ces femmes qui quittent le métier à tisser pour suivre Dionysos dans les bois et pour fuir leur destin de femmes et de femmes au foyer et qui doivent rester attachées à leur métier à tisser et qui vont vivre dans les bois et qui suivent Dionysos et qui du coup mettent en péril la cité, tout l'ensemble de la cité parce qu'elles ne sont plus là au foyer, parce qu'elles ne sont plus là pour enfanter. Voilà, donc il y a des choses assez mythologiques autour de cette histoire, autour de cette démarche. C'est aussi le mythe de la Dame Blanche, voilà, que moi j'ai représenté avec la chouette dans le film. C'était une petite référence et un petit clin d'œil. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a des références aussi au fantastique, au monde animal. Voilà, c'est plus une fascination par rapport à tous les imaginaires qu'elle évoque et qu'elle convoque.
Il y a les imaginaires, Camille Poncin, dont vous parlez, la mythologie, mais il y a aussi le réel et le territoire vécu. Les Cévennes, c'est un territoire qu'on qualifie volontiers de sauvage, qui est peu habité, difficile d'accès, relativement coupé du monde, qui peut donner aussi envie de s'en couper totalement. Et ça ressort très fort dans votre film, ces paysages-là qui peuvent donner à tout un chacun cette envie de disparaître. Est-ce que vous avez déjà ressenti, même vous dites que vous n'êtes pas identifié à cette jeune fille, mais est-ce que la puissance de ce paysage aussi a été très importante pour raconter cette histoire? Est-ce que vous avez déjà ressenti ce qu'on pourrait appeler la tentation Anja?
Oui, bien sûr, c'est moi qui utilise souvent cette expression, la tentation Anja. J'en ai déjà parlé, et c'est effectivement quand on est en haut de la colline de la vallée de Trabassac et qu'il fait beau ce jour-là et qu'on se sent bien et qu'on voit toute cette nature qui est assez, elle aussi, fascinante, envoûtante, attirante, angoissante parfois, mais parfois on se sent un peu en osmose avec la nature, on est là entre ciel et terre. Et effectivement, on se dit, mais pourquoi redescendre? Pourquoi est-ce que je resterai pas là? Voilà. Mais quand je filmais les traces d'Anja, parce que j'ai d'abord nourri l'écriture de ce film par une enquête documentaire que j'ai fait en allant sur les traces d'Anja, en allant avec sa mère quand elle était encore dans les bois et quand elle allait encore lui apporter à manger, lui apporter des couvertures, des habits. Donc je l'ai suivi, je l'ai filmé, je voulais documenter ça aussi pour qu'il reste aussi une trace visuelle de ce qu'a vécu la mère d'Anja. Et donc parfois je me retrouvais à suivre les traces d'Anja, j'étais là-haut, j'avais vu des signes, j'avais vu des habits à elle, j'avais vu les rivières où elle se baignait, un morceau de savon, tout ça, et puis je me suis dit voilà sa maison, voilà son foyer, voilà son univers, voilà son monde. Et effectivement il y a des fois où on se dit à quoi bon redescendre, est-ce que ça vaut le coup de redescendre et pourquoi ne pas rester là? Et c'est vrai que tous les gens qui vivent dans les Cévennes, tous les gens qui sont passés un peu longtemps par les Cévennes ont un rapport quand même très fort à la nature. On est très attaché à cette nature sauvage, cette garrigue, ces chênes verts, ces châtaigneraies. Voilà, j'ai voulu montrer aussi cette nature qui est un vrai personnage dans le film. Hein. J'ai voulu la filmer, la montrer comme un personnage du film. J'étais d'ailleurs inquiet de bien rendre cette nature cévenole, parce que je voulais pas en faire non plus un décor de carte postale, mais je voulais montrer son pouvoir aussi attirant et envoûtant qu'angoissant parfois.
Justement, par rapport au tournage, pour vous, c'était important de tourner sur le territoire vécu par la famille, par les habitants, et vous n'auriez pas pu tourner le tournage ailleurs que dans les Cévennes?
Bien sûr, on aurait pu le tourner ailleurs que dans les Cévennes. On l'a envisagé. D'abord, on a fait des repérages toujours dans les Cévennes, mais dans une autre vallée, voilà, assez éloignée, donc où les paysages étaient à peu près les mêmes, mais ce n'était pas là où avait eu lieu l'histoire. Et quand on a commencé les repérages, Anja était encore... le personnage que j'appelle Anja dans le film, qui ne s'appelle pas Anja dans la vraie vie, était encore dans les bois. Voilà. Et donc, l'histoire était encore en cours. Donc, on s'est dit, on ne va pas tourner là, évidemment, et on ne va pas la déranger. Et donc, on avait... moi j'ai discuté avec la mère et on s'est dit il vaudrait mieux aller tourner ailleurs parce que voilà. Et puis il est arrivé ce qu'il arrive sans vouloir dénaturer la fin du film, mais il se trouve que un tournant a eu lieu dans l'histoire de la véritable Anja et qu'elle ne se trouvait plus dans la vallée. Et à partir de ce moment-là, j'en ai rediscuté avec la mère. Et on s'est dit, quitte à raconter cette histoire, autant la raconter dans les vrais décors. Et comme je disais que la nature a un rôle important et c'est une nature très particulière, on s'est dit, autant la tourner là où elle a vraiment eu lieu pour que les gens ressentent aussi cette nature et ressentent au maximum ce qu'elle a pu ressentir, vivre en tout cas par rapport à la nature. Parce qu'évidemment, on ne peut pas se mettre à la place d'Anja et on ne peut pas du tout savoir comment elle ressentait les choses. Mais en tout cas, oui, c'était important pour moi, surtout que c'était des lieux très familiers pour moi. Les maisons qu'elle visitait, les clèdes dans lesquelles elle se réfugiait, c'est des endroits que je connais depuis toujours. Les rivières dans lesquelles elle se baignait, c'est les rochers même, je les connais. Donc pour moi, j'étais très attaché aussi à certains décors, à certaines maisons. Et donc, on a tourné dans des maisons que visitait la véritable Anja, où il y avait encore les petits mots à son attention dans la maison. Donc, des maisons qui sont difficiles d'accès, où il n'y a qu'une petite route pour se croiser avec des camions d'équipes de cinéma et de lumière. Et avec les techniciens, ce n'était pas simple à organiser. Mais la productrice Isabelle Madeleine a été formidable à ce sujet-là, parce qu'elle a dit, mais bien sûr que c'est là que ça a eu lieu, quand j'arrive sur le décor, je vois ton film, parce que tu l'as écrit en pensant à ces lieux, tu l'as écrit en pensant à ces maisons, à ces rochers, et donc elle a tout fait pour qu'on arrive à tourner là-bas, et tous les techniciens ont joué le jeu, et je les remercie encore, et on a réussi à tourner dans les endroits où c'est vraiment passé cette histoire.
Il y a presque un côté hybride, finalement très documentaire, malgré le fait que ce soit une fiction, parce qu'à l'origine, vous êtes un cinéaste documentariste. D'ailleurs, à ce sujet, David, tu voulais poser une question à Camille.
Oui, Sauvage, c'est votre première fiction. Et pourquoi est-ce que vous avez voulu passer à la fiction avec ce film ?
Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça permettait de mettre une distance avec le réel qui était nécessaire, en réalité, pour raconter cette histoire, parce que c'est une histoire qui a créé beaucoup de tensions dans la vallée, voilà, et parmi des vieux copains, parmi des voisins, parmi les habitants du village. Et donc, c'était une histoire encore vécue à fleur de peau, c'était une histoire intime et collective à la fois. Voilà. Et donc, même si les gens me connaissent dans la vallée française, autour de Sainte-Croix-Vallée française, me connaissent depuis longtemps personnellement, et puis me connaissent mon travail de documentariste parce que j'ai eu l'occasion de le présenter, de présenter mes films, notamment au festival Terra Nostra, qui est un formidable festival de documentaires qui a lieu en octobre, comme chaque année, mais que vous devez sûrement connaître. Et donc, même s'ils connaissaient mon travail, mes démarches, tout le monde était quand même perturbé par cette histoire parce qu'il y avait beaucoup d'avis divergents, il y avait beaucoup de tensions, il y a eu beaucoup d'incompréhensions et les gens étaient aussi inquiets qu'il y ait aussi des mauvaises interprétations, que certaines personnes aient le mauvais rôle dans cette histoire et donc ils redoutaient beaucoup cette approche documentaire. Voilà, donc quand Isabelle Madeleine m'a proposé de le raconter en fiction, j'ai saisi l'occasion parce que ça me permettait justement de changer les noms des personnages, d'être beaucoup plus à l'aise pour raconter cette histoire et je crois que les gens étaient aussi étaient soulagés que ce soit traité sous forme de fiction. D'autre part, si c'était en documentaire, moi, toute l'enquête documentaire que j'ai faite, je n'ai jamais filmé Anja, je ne l'ai pas traqué, la vraie Anja, et donc ça aurait été un portrait en creux, ce qui se fait en documentaire, ce qui aurait pu être très intéressant, mais de pouvoir aussi la représenter, la voir, même si ce n'est pas elle exactement, Ça, c'est ça que permettait la fiction. Et quand je vois le travail qu'on a fait avec Lou Lamprose et la performance de Lou Lamprose dans l'incarnation d'Anja, pour ceux qui ont connu la vraie Anja, c'est très saisissant de réalité, hein. Et des fois, on dit que la fiction permet de encore mieux transmettre le réel. Bah, là, j'en ai fait l'expérience. Et pour moi, c'était aussi très intéressant de découvrir cette nouvelle forme de récit. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'étais heureux de raconter cette histoire en fiction. Thank you.
Vous êtes bien sur Radio Bartas, on écoutait Oiseau de Bertrand Belin avec le saxophoniste Laurent Barden et son quintette Tigre d'eau douce, morceau sorti en 2022. Et je suis toujours en compagnie de David de Cinéco et de Camille Poncin, réalisateur du film Sauvage qui sera projeté ce soir par Cinéco à Meruès. Et en parlant de Bertrand Belin, justement, un mot peut-être sur le casting de ce film. On a déjà évoqué Lou Lampros, mais il y a d'autres excellents comédiens qui sont à l'affiche.
Oui, et il y a également Céline Salette qui joue le rôle de la mère d'Anja aux côtés de Bertrand Belin. Et je voulais vous demander si vous aviez pensé à cette comédienne avant même l'écriture du scénario.
Tout à fait. J'ai écrit en pensant à elle. Je ne la connaissais pas, je ne lui avais pas encore parlé de mon projet, mais j'ai tout de suite pensé à elle parce que c'est une comédienne que je trouve formidable dans tous ses films, qui a une palette de jeux extraordinaire et puis surtout qui a quelque chose de très mystérieux dans ce qu'elle dégage dans son physique, dans son visage, et même presque peut-être aussi une faille intérieure et qu'on perçoit, qu'on devine, mais on ne sait pas ce que c'est. Et donc ça, je trouvais que ça correspondait très bien au personnage de la mère, de la vraie mère, voilà. Et donc j'ai tout de suite pensé à elle et j'ai espéré qu'elle accepte et qu'elle lise le scénario et puis ensuite qu'elle accepte. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a tout de suite accepté le rôle et donc j'étais très soulagé parce que j'avais même pas vraiment réfléchi à d'autres personnes. J'attendais que d'avoir sa réponse pour pouvoir commencer à réfléchir à d'autres personnes. Une de mes découvertes, c'était la puissance et le savoir et la force des comédiens, quoi. C'est vraiment impressionnant, hein, de voir des comédiens en travail. En tout cas, moi, j'ai été bluffé par la prestation de Céline Salette et celle de Lou Lampros et celle aussi de rôles secondaires importants dans le film, que ce soit Viviane, la copine de la mère, que ce soit Pascal Durosier qui interprète le rôle du maire du village, qui est formidable, qui est un comédien de théâtre que moi j'avais repéré au théâtre, et tous les personnages secondaires. J'ai été vraiment très gâté et très heureux avec ce casting et tous ces acteurs et toutes ces actrices qui portent vraiment le film, et c'est vraiment aussi beaucoup grâce à eux que le film tient la route.
Et d'ailleurs, est-ce que tous les personnages du film, les personnages secondaires que vous évoquez, par exemple le maire, est-ce qu'ils sont inspirés des vrais protagonistes de cette histoire ?
Oui et non, en fait. Tous les personnages sont inspirés de vrais personnages, mais pas d'un seul. C'est-à-dire, je me suis inspiré, le rôle du maire, c'est un peu le rôle de tous les maires de la commune de la Vallée. C'est un mélange de celui d'un peu de Sainte-Croix, un peu de celui de Molson, un peu celui de Gabriac, un peu celui de... Voilà, c'est un peu l'essence du maire de ce pays. Le personnage qui est dérangé et qui est en colère contre Anja et qui peut-être avoir le mauvais rôle dans le film, c'est aussi l'incarnation. C'est pas un personnage en particulier, il y a plusieurs personnes qui ont été dérangées. Donc elle est le porte-voix de tous ces gens qui ont été dérangés, malmenés, au point d'en arriver à parfois un peu de dépression, quoi. De douleur, de dépression. C'est ça que permet la fiction, hein. Je tenais aussi à montrer que ces gens qui peuvent parfois avoir le mauvais rôle dans cette histoire, en réalité, c'est tout à fait entendable. Et quand on est capable de se mettre à leur place, en fait, tous les points de vue sur cette histoire et sont entendables. Et donc, je tenais vraiment aussi, moi, dans le film, et je pense que ça, c'est plutôt réussi, parce que c'est ce qu'on me dit et c'est les retours que j'en ai toujours, c'est qu'en fait, quand on écoute Betty dans le film, on comprend Betty, on comprend la colère de Betty, et on est capable aussi de comprendre les chasseurs à un moment donné, quand la chasse est autorisée dans cette vallée et qu'il y a une jeune fille qui se promène parfois à moitié nue et qui se comporte un peu comme un animal, on peut comprendre que les chasseurs sont angoissés à l'idée qu'il y a un accident de chasse, parce que quand on est chasseur, tiré sur quelqu'un par accident, c'est ce qu'il y a de pire. On est capable de comprendre aussi le maire quand il essaye de trouver une solution d'abord entre soi, avec les gens du village, avant de faire appel aux autorités, avant de faire appel à la gendarmerie ou à la préfecture. Et puis, bien sûr, il y a le point de vue de la mère, et c'est par elle que je vais finir, parce que c'est pour moi le point de vue le plus important, parce que c'est elle qui a le plus pris soin de sa fille pendant ses 15 ans, et peut-être maladroitement, hein, et ça... c'est pas moi qui irai dire ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire, mais chacun fait comme il peut. Et mais cette mère qui est dans une douleur, comme personne, et donc c'est pour ça que j'ai C'est le point de vue principal hein, pour moi. Mais évidemment, quand la mère, on lui dit « faut que tu arrêtes d'aller nourrir ta fille et prendre soin de ta fille » et qu'elle le fait malgré tout, eh ben, quand on est capable de se mettre à la place de la mère, qui est un enfant qui va peut-être mourir, tomber dans un trou, mourir de froid, mourir de faim dans la forêt, eh ben, c'est normal que la mère continue d'aller lui apporter à manger, d'aller lui apporter des affaires. Et quand on est capable de se mettre à sa place, eh ben, on est capable de comprendre ça aussi. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que le conflit de voisinage s'est-il terminé dans la réalité ?
Bah, dans la réalité, il s'est terminé par la force des choses, c'est-à-dire qu'elle a été arrêtée par les gendarmes, la véritable Anja, et donc ça a pris fin et elle a été placée en institution à l'hôpital et elle est soignée maintenant à l'hôpital. Donc ces problèmes de voisinage se sont arrêtés du jour au lendemain, mais ça a pris du temps et pendant plusieurs années, ça a pourri les relations entre voisins et ça a pourri les relations aussi entre amis parce que c'est plus que des relations de voisinage, c'était une vallée dans laquelle se sont installés des gens dans les années 70-80 qui se connaissaient pour la plupart depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui avaient partagé des rêves, partagé des combats, qui avaient mené des luttes, qui avaient nourri des utopies tous ensemble et puis qui ont été très proches. Et puis c'est ces gens-là hein, qui, cette histoire a ébranlé ses amitiés, cette histoire a mis à mal ses amitiés. Et donc, ça a été très difficile, très dur à vivre pour tout le monde et en particulier pour la mère hein, qui, à un moment donné, était tenue responsable des agissements de sa fille. On lui a même dit qu'elle était complice et que c'était elle qui lui disait quelle maison visiter, etc. Des choses assez odieuses, hein, parce que ça c'est pas vrai et pas vrai du tout. Et la mère, moi, je l'ai vue, hein, elle a juste jamais voulu que sa fille meure de faim ou meure de froid. Mais elle a toujours dit à sa fille, et je l'ai toujours entendu dire à sa fille, et son frère aussi, son grand frère a toujours dit à sa sœur, mais arrête tes conneries, arrête de rentrer chez les gens, pourquoi tu vas chez un tel ou chez une telle alors que ce sont nos amis, alors qu'ils ont pris soin de toi, etc. Mais le problème, c'est qu'elle elle n'est pas dans la raison, elle n'est pas dans le même système de raisonnement, et elle faisait des choses complètement inconsidérées, complètement déraisonnables, parce que c'est des problèmes qui concernent les gens qui ont des troubles psychologiques forts et qui sont en crise et qui sont dans ce qu'on appelle le spectre large de la schizophrénie. Voilà, donc ça a été difficile, les gens se sont beaucoup accrochés et puis ça s'est arrêté du jour au lendemain, le jour où Anja n'était plus dans les bois et ne dérangeait plus les uns et les autres. Voilà, ça s'est arrêté par la force des choses et par l'arrestation d'Anja.
Dans le film, le personnage de Sam, donc, qui joue la mère d'Anja, à un moment, elle dit « tout finit toujours mal », alors que pourtant, au début, vous l'avez dit, cette façon de vivre de ces gens-là dans cette vallée, c'était une utopie, une belle utopie. Est-ce que, avec cette histoire, et c'est aussi ce que vous avez voulu peut-être raconter, c'est la fin d'une période, la fin d'une utopie, et que ça ne pouvait pas finir bien ?
Oui, alors c'est un peu la fin d'une utopie, et effectivement, après que ça pouvait pas finir bien, je sais pas, hein, peut-être ça aurait pu finir bien, hein, mais en tout cas là, ça a pas fini bien. Et puis voilà, c'est ces utopies de la vie en collectivité, de l'amour libre, de la parentalité qui se promène d'un parent à un autre, où tous les enfants sont un peu les enfants de tout le monde, et etc. Effectivement, c'était des belles utopies. Hein, ça aurait pu fonctionner, mais la réalité, c'est que ça, il y a peu de communautés qui ont tenu et qui ont bien terminé. Voilà. Et donc, effectivement, Anja, avec son histoire, avec sa petite trajectoire à travers les bois, elle s'extrait de cette communauté, de ce monde qui est déjà un monde marginal. Hein, le monde inventé dans les Cévennes dans les années 70, c'était un monde qui se voulait marginal, qui voulait échapper au carcan bourgeois, autoritaire, traditionnel, voire réactionnaire de l'époque, de la première moitié du XXe siècle et de leurs parents. Et qu'à un moment donné, même pour des marginaux, quelqu'un qui vit de manière trop marginale, encore plus marginale, à un moment donné, ça vient perturber, ça vient déranger. Et les convictions qu'on avait de tout partager, à un moment donné, on ne peut pas tout partager. Et quand on s'attaque à des choses personnelles et même à des biens et à de la propriété, même chez les gens qui se disent communautaristes, qui se disent anti-propriété, même eux sont rattrapés par ça. Donc effectivement, Anja, elle a fait voler en éclats quelques utopies. Voilà, pas toutes les utopies, mais quelques-unes.
Est-ce que vous avez des nouvelles de la jeune fille aujourd'hui?
Oui, bien sûr, j'ai des nouvelles de la véritable Anja. Je l'ai vue il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, avec sa mère. Nous sommes allés la voir. Elle est depuis maintenant presque 2 ans prise en charge dans une institution, dans un hôpital. Et voilà, donc elle réapprend à vivre parmi les hommes, entre des murs, avec des habits, avec des voisins, avec des règles et des heures de repas. Voilà, donc c'est pas simple, évidemment. C'est pas complètement catastrophique non plus. Il y a des choses qui se mettent en place, mais ça va prendre du temps. Elle est assez apaisée, elle est assez tranquille, elle est encore très solitaire et très dans son monde. Elle n'est pas très intéressée par le monde des autres. Et c'est très difficile de savoir quelle est exactement sa réalité parce qu'elle ne parle pas beaucoup. Moi, quand je lui parle et que je lui raconte le travail que j'ai fait avec sa mère, alors elle le sait, hein, parce qu'elle m'a vu dans les bois me promener et accompagner sa mère. Je lui ai laissé des mots, sa mère lui avait laissé des mots pour expliquer ma démarche. Je lui ai proposé de voir le film même. Enfin, je lui ai dit que j'avais à disposition tout ce que j'avais fait avec sa mère, avec ses amis, avec les avis de sa mère qui parlent d'elle. J'en ai parlé à ses médecins, à la médecin en chef psy qui la suit et puis qui s'est dit que ce serait peut-être une bonne chose qu'elle regarde ces images, qu'elle regarde le film parce que ça pourrait lui permettre de se confronter un petit peu à son histoire et du coup d'en parler et peut-être de libérer un peu de parole. Mais pour l'instant, ça ne l'intéresse pas du tout. Elle n'a pas du tout envie de voir le film. Quand je lui raconte des choses, ça ne l'intéresse pas. Et puis très vite, elle passe à autre chose. Elle demande ce qu'on va manger. Elle me demande si j'ai une cigarette. Elle me demande des choses comme ça. Mais en fait, c'est difficile d'échanger avec elle. Même pour sa mère, c'est pas simple. Et c'est toujours très douloureux pour sa mère parce que sa fille continue de pas aller bien, sa fille souffre, plus de la même manière, c'est une autre manière, il y a sûrement moins de souffrance physique, il y a sûrement moins de danger, elle est plus en danger de vie ou de mort, parce que quand elle était dans les bois, il y avait quand même un danger de vie ou de mort. Il y a plus cette angoisse-là, mais il y a d'autres angoisses, et qu'est-ce qu'elle va devenir, comment elle va s'en sortir, est-ce qu'elle va réussir à avoir une vie sociale, est-ce qu'il y a des moments encourageants où elle va mieux, elle va bien, et puis les médecins sont plus confiants, et puis il y a des moments où ça repart un peu en arrière, donc voilà, mais c'est pas simple.
Eh ben merci beaucoup Camille Poncin d'avoir passé ce temps avec nous pour nous partager toutes ces informations autour de ce film, de cette histoire qui est fascinante, très touchante. Merci beaucoup David d'avoir mené cet entretien avec moi. Et donc, le film Sauvage est à voir ce soir à 21h à Meruès. Demain, vendredi, à 21h, vous pourrez le voir à Saint-Germain-de-Calberte à 21h également et à Ispagnac, toujours à 21h. Et puis samedi, à 20h30, ce sera à Bardet-Cévennes. Dimanche, à 21h, une séance en plein air à Saint-Enimi. Et pour la suite des séances, eh bien, rendez-vous sur le site www.cineco.org. Merci beaucoup.
Merci à vous, au revoir.
Merci.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au 4e top, il sera exactement...
Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus 1 heure.